Quatrième cours de métaphysique, Fribourg, 23 novembre.
On pose une question. Là, nous entrons dans l'Afrique. En Afrique. Parfois, se trouve parfois des situations où un sorcier agit à distance sur l'âme de son ennemi. C'est évident, c'est votre mystère. Il s'agit d'un combat où l'ennemi en question avoue que le sorcier mange son âme. De fait, s'il n'est pas assez fort, il meurt. Comment comprendre cela philosophiquement ? Vous avez parlé de digestion. Il garde le fait, et à partir de là, il déduit le principe. Quel genre d'assimilation ça se fait, puisqu'il mange son âme. Alors, métaphoriquement, est-ce de fait par une espèce d'influence maléfique? Alors là, dans les sorciers, il y a toujours des influences démoniaques. Alors les influences démoniaques peuvent aller très loin. Le démon ne peut pas manger notre âme. Il y a danger. Il ne peut pas manger notre âme. Mais le démon peut faire que l'âme, d'une certaine manière, ne puisse plus agir et qu'on soit comme mort. Parce que le démon peut agir sur l'imaginaire. Alors, sur l'imaginaire, il arrête l'exercice de l'intelligence et l'exercice de la volonté. Donc il peut faire qu'on soit comme mort, qu'on ne puisse plus agir librement. Et en fond, c'est ça que ça veut dire, manger son âme. Voyez, c'est métaphorique. Hein. Il mange mon âme, c'est-à-dire je ne peux plus agir. Je suis comme inhibé. Je suis sans force, je suis épuisé. Alors ça, c'est des forces démoniaques qui peuvent, sur l'imaginaire, remarquez que dans un, même des gens sans aller jusqu'au démon, on sait très bien qu'il peut y avoir une certaine puissance très très forte sur l'imaginaire. On a arrivé à faire que certains êtres sont comme immobilisés, même sans faire appel au profond du démon. Simplement, une force de séduction, une force de magnétisme sur quelqu'un, on va le libérer, donc l'empêcher d'agir. Alors c'est sur quoi? C'est sur sa sensibilité, son imagination. Et le démon, évidemment, agit beaucoup plus. Il agit beaucoup plus immédiatement sur le point de vue imaginaire. Et sur le point de vue imaginaire, il arrive donc à empêcher l'exercice même de cette vie spirituelle en nous. Il arrivait même, d'une certaine manière, à nous immobiliser, à faire qu'on ne puisse plus bouger.
Et ça peut mener à la mort.
Ça peut mener à la mort. Ça peut mener à la mort. Mais alors là, évidemment, c'est l'intervention de Dieu tout cela. Je ne crois pas. C'est très difficile de savoir jusqu'où le démon peut-il tuer quelqu'un. Ça, c'est une question théologique. C'est une question théologique. C'est une question très très difficile. Vous savez, dans le texte de l'Écriture, ce n'est pas le texte. Dans aux femmes qui chaque fois qu'elle avait un démon, le démon tuait. Alors, c'était quand même quelque chose. Il a dit que le démon le tuait. Moi, je croyais que le démon ne peut pas agir directement et agir toujours par l'intermédiaire d'un homme pour tuer. Parce qu'il est dit dans le livre de Job que Dieu laisse une permission telle qu'il peut influer sur Job, mais il ne peut pas le tuer. C'est très bien. Ça, un domaine alors théologique difficile. On ne va pas le préciser maintenant. Bon, mais c'est intéressant parce que c'est la question de la mort et c'est la question des interventions par rapport à la mort. Un homme peut tuer son voisin. C'est évident, on peut trembler. Tuer. On peut se donner à soi-même la mort, c'est sûr. Notre vie est fragile. Notre vie est fragile, et notre vie étant fragile, donc il y a action, non pas directement sur la substance, une action sur les opérations vitales qui conduisent à la séparation de la nourriture. Parce que l'action artistique est toujours sur les accidents. L'artiste n'agit jamais directement sur la substance, il agit toujours sur les formes qualitatives ou quantitatives. Bon. Alors, le fameux problème de l'individuation, on va continuer ce problème de l'individuation, parce que c'est intéressant à voir, de comprendre comment ma substance, la pensée à vous-même, ma substance individualisée, c'est ma substance prise concrètement. C'est ce principe que j'ai saisi par l'intelligence, que je vois ensuite comment il existe. Vous voyez tout de suite la différence avec Descartes. C'est intéressant parce que Descartes s'est posé le problème de la substance pensante et de la substance matérielle, la substance quantitative. Alors, Descartes fait deux substances, la substance pensante et la substance quantitative. Et au fond, pour l'âme, pour l'homme, je veux dire, il ne maintient pas l'unité substantielle. Il y a les deux substances. Tandis que dans la perspective réaliste, il faut dire que nous n'avons qu'une seule substance individualisée. Notre âme informe notre corps, et notre âme, en informant notre corps, s'individualise d'une manière telle que je suis cet individu, et que, en disant cet individu, je touche ma substance individualisée à travers mon corps, à travers la matière, et à travers ma sensibilité, à travers ma quantité. C'est tout moi-même qui est individualisé. Et ça, aujourd'hui, la biologie le montre d'une façon très étonnante, puisque chacun d'entre nous, nous avons notre chiffre qui est notre chiffre propre, et du petit doigt et tout notre corps, on retrouverait quelque chose qui fait qu'on peut, vous savez, on l'a fait pour les ossements des seins, on a vu de temps en temps qu'il y avait des tibias qui ne correspondaient pas à la tête. Parce qu'il y a une unité organique substantielle qui montre bien l'unité substantielle de l'individu. Toutes les recherches biologiques d'aujourd'hui conduisent très très fort à montrer cette unité de la substance individuelle qui est unique. Et donc, si à cette unité, vous voyez, il faut donc qu'il y ait un principe unique de l'âme du corps. Alors, principe unique de l'âme du corps, la substance, mais comprenons bien, la distinction. Alors, nous allons reprendre ça d'une façon un peu plus générale, et je crois que vous allez comprendre. En philosophie de la nature, ce qu'on appelle la philosophie de la nature, peu importe comment vous l'appelez, cosmologie, aujourd'hui on parle plus de ça, cosmologie ou anthropologie, c'est tout ce que vous voulez. La philosophie de la nature, on distingue la nature, forme et la nature matière. Fameuse distinction de l'uniformisme. Alors la distinction, ne l'oubliez jamais, la distinction forme-matière est une distinction que nous découvrons en premier lieu dans l'œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art qui nous donne en premier lieu cette distinction forme et matière. Ça, nous pouvons tous comprendre. Hein. Le cercle est un cercle d'airain, ou c'est un cercle de bois, ou c'est un cercle de pierre. Bon, vous voyez tout de suite, c'est toujours le cercle, et la matière est différente. Donc là, il ne faut pas être très intelligent pour comprendre ça. Tout le monde comprend ça. Bon, on voit très bien. Vous ferez une critique du reste aux dissertations, la forme merveilleuse, n'est-ce pas ? Mais le fond moins bien. La forme merveilleuse, mais il n'y a rien. La critique que faisait une fois le père Certilange, qui faisait la critique des sermons, tout ça, il ne savait pas qui était. Il y a eu le roi, il y a eu le Certilange, il y a eu son particulier. Alors un beau jour, c'était quelqu'un qui était entré sur ce Saint-Denis, qui avant, après, avait fait face au point de vue prédication. C'est pour ça qu'il était entré. Alors, il avait Florès, tout le monde le connaissait. Père Certilange, je ne le connaissais pas, numéro 1. Alors, numéro 1, il fait son improvisation. Alors le crédit de Bertin, quand le frère aura fait sa théologie, il saura qu'un sermon, ce n'est pas un air de flûte. Alors, la forme, très bien, continue. La matière et la forme. Vous savez, la distinction de matière et la forme, c'est facile. On dira, c'est merveilleux, cette forme est expressive. Si elle est pu prendre une matière un peu meilleure. Bien, vous avez au contraire une matière extraordinairement noble et magnifique. C'est désastreux que ce soit employé pour quelque chose d'aussi lamentable de l'expression. On voit très très bien matière et forme. Cette distinction de la matière et forme qui joue un tel rôle en philosophie, je crois que c'est la première distinction philosophique. C'est la première distinction philosophique. Et elle vient de la philosophie de l'art. Parce que la philosophie de l'art est quand même le point de départ au plan génétique de toute notre philosophie. C'est le travail, on sait très bien qu'est-ce que c'est que travailler. Travailler, c'est infuser, c'est communiquer à une matière une certaine forme pour en faire une œuvre d'art. Qu'il s'agisse d'un art culinaire ou qu'il s'agisse d'un art musical, c'est toujours la même chose. C'est toujours informer une forme dans une matière plus ou moins évoluée, une matière tout ou moins bonne. Et on fait tout matière et forme. On transpose, c'est ça qui est très curieux, on transpose cette distinction qui est d'ordre de philosophie pratique, on la transpose en philosophie spéculative. C'est-à-dire en philosophie de l'univers. La philosophie de la nature, c'est la philosophie de l'univers, la philosophie du tout. Et je distingue nature-forme et nature-matière. Cette distinction nature-forme et nature-matière va distinguer ce qui est lu. Notre univers, c'est le domaine de ce qui est lu. Tout est lu dans notre univers. Et je distingue donc les deux. Alors, comprenons bien, dès que je suis à un niveau de philosophie première, non plus de philosophie de l'univers, dès que je suis au niveau de philosophie première, comment ce qui est se divise en premier lieu? Ousia, substance et accident. Ce qui est, est au-delà de la distinction forme et matière. Vous voyez, Gilson, pourtant n'est pas un imbécile, hein, Gilson dit que la distinction nature-forme et nature-matière commande toute la philosophie d'Aristote. Et que saint Thomas a continué de dire ça. Or, si je suis attentif, je dois dire que la distinction forme et matière commande toute la philosophie de l'art. La distinction nature-forme et nature-matière commande toute la philosophie de l'univers, donc de ce qui est lu. Et la distinction substance-accident commande la philosophie de ce qui est. Je ne divise pas ce qui est en matière et forme. Alors ça, c'est très très important. Je ne divise pas ce qui est. L'être ne se divise pas en forme et matière. C'est le devenir de l'être qui se divise en forme et matière. Vous voyez donc que la distinction forme et matière n'est pas du tout la distinction fondamentale ou, si vous voulez, caractéristique de la philosophie d'Aristote. Non. Puisque cette distinction matière et forme existait déjà chez Platon. Elle n'est pas caractéristique de la philosophie d'Aristote. Elle existait déjà chez Platon. C'est sûr qu'Aristote l'a repensée à sa manière pour faire nature-forme, nature-matière. C'est sûr. Mais Aristote comprend, et c'est là où on voit très bien qu'Aristote, quand il a eu distinction ou une division, il ne l'applique pas, il n'applique pas matériellement à n'importe qui ou n'importe où. Il fait attention que lorsqu'il s'agit de ce qui est, la distinction matière et forme est dépassée par la distinction ousia et substance et accident. L'être se divise en substance et accident. Mais l'être ne se divise pas en matière et forme. Ça, il faut le comprendre. Il faut à tout prix comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne voyez pas ce que... Comment une distinction vraie à un niveau peut être complètement fausse à un autre niveau. C'est ça l'analogie. C'est que certaines distinctions sont vraies à un niveau et sont fausses à un autre niveau. La distinction matière et forme est vraie au niveau de ce qui est nu, est vraie au niveau de l'œuvre d'art. Alors vous pouvez vous demander, est-ce qu'elle est vraie dans l'action morale? Est-ce que dans l'action morale, vous pouvez distinction forme et matière? J'ai commis un péché de gourmandise. Vous voyez? Alors, vous voyez, la forme et la matière. Ce péché de gourmandise est mortel quand vous avez pris tant de kilos. Alors, matière et forme. Alors, vous voyez, la question, est-ce que je peux? Non, c'est une autre distinction. Quand je suis dans l'opération morale, quelle est la première distinction? Fin, moyen. C'est pas matière et forme. C'est la fin des moyens. Ça, c'est très très important, parce que c'est là où on voit que la philosophie, elle est à des niveaux différents et qu'elle n'est pas uniforme. Elle ne se développe pas comme une dialectique uniforme. Elle se développe chaque fois différemment. Parce que les distinctions sont faites pour que je puisse saisir ce qu'est le premier. La forme est première, la matière est seconde. La fin est première, le moyen est second. La substance est première, l'accident est second. Alors je peux établir ces analogies. Je peux dire la nature forme à l'égard de la matière dans l'ordre de ce qui est mu est la même chose que la fin et le moyen dans l'ordre de l'opération vitale, dans l'ordre de l'opération morale. Où elle est analogue à la distinction de ousia et de l'accident dans, à l'égard de ce qui est, à l'égard de l'être. Alors, j'ai fait ça pour vous rappeler. Vous voyez donc, la distinction corps et âme, ou âme et corps, elle est à l'égard de ce qui se meut. Et comme ce qui se meut implique un devenir, c'est vrai, la vie biologique implique un devenir, la distinction du vivant va impliquer âme et corps, donc va impliquer forme et matière. Analogue, c'est pas tout à fait la même chose. Forme et matière ou âme et corps, c'est pas tout à fait la même chose. C'est très proche. Quand il s'agit de ce qui est, la distinction, c'est ousia et accident. Alors, si je fais l'application, je dirais l'âme est ousia et le corps est accident. Vous voyez le platonisme? Vous voyez comment le platonisme est? Parce qu'on dira l'âme, c'est la forme, donc elle est première, c'est la forme. Et l'accident, c'est second, donc c'est le corps. Le corps est second. Et alors à ce moment-là, vous direz que le corps est accidentel. Et donc le corps s'ajoute de façon accidentelle. Non, le corps n'est pas accidentel. Le corps est du côté de la substance. Donc, la distinction âme et corps ne joue plus au niveau métaphysique. J'ai une nouvelle distinction substance-accident. Oui. Tandis que si j'appliquais tout simplement la distinction âme et corps au niveau métaphysique, eh bien j'aurais tout simplement, donc, le corps est un accident. Ce que Platon dit. Alors c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, je peux comprendre, vous voyez, l'erreur de Platon, c'est qu'il a, de fait, il est tombé dans une espèce d'univocité entre l'être et le devenir, entre le vivant et l'être. Ce qui était vrai du vivant, ce qui était vrai du devenir, il l'appliquait à l'être. Et alors à ce moment-là, il fait une erreur énorme. Et le corps devient nécessairement un accident. Ça, c'est important à saisir parce que c'est des distinctions capitales. Vous voyez, alors vous voyez comment Gilson là, n'a pas vu avec suffisamment de netteté, je dis ça parce que c'est bon de dire du Gilson, mais c'est bon en même temps de voir les points qu'il n'a pas saisis. Il n'a pas saisi ça du tout dans la philosophie aristotélicienne. Donc il n'a pas saisi ce que c'est que la philosophie première. Parce que quand on ne saisit pas cette distinction fondamentale de la philosophie première, on saisit la philosophie première comme une métaphysique. Et donc les distinctions de la physique, les distinctions de la philosophie de la nature, de la physique, on les prolonge en métaphysique. Et prolonger ces distinctions en métaphysique, c'est justement de ne plus rien comprendre du tout à la philosophie première. La philosophie première a quelque chose de tout à fait particulier. Parce qu'elle saisit un principe propre, c'est l'ousia. Et l'ousia est autre chose que la nature forte. Et l'ousia est autre chose que l'âme. Bien que, encore une fois, l'âme ce soit ma substance. Mais comme c'est curieux ça. Ça c'est très intéressant à saisir et à... C'est pas commode, je sais très bien, c'est difficile. Dès qu'on est en philosophie première, c'est tout est très difficile. Parce que c'est subtil. C'est subtil, la moindre petite chose. Hein. Mais en même temps, c'est la réalité concrète. C'est bien c'est ça, c'est pas du tout abstrait comme quelque chose de lointain. L'expérience est là. Et l'expérience nous fait comprendre que notre corps, ben oui, fait partie substantielle de notre être. Mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de premier en nous. Ce qu'il y a de premier en nous, c'est l'esprit. Il peut y avoir deux choses qui sont substantiellement essentiel, l'âme et le corps, mais selon un certain ordre. Et c'est pour ça que le corps est intégré du côté de l'ousia. Et c'est le problème de la substance individuelle. La substance individuelle, l'individuation n'est pas quelque chose d'accidentel à la substance. C'est la manière d'être de la substance. Si c'était quelque chose d'accidentel, il faudrait dire que le corps est accident. Que le corps est un accident qui vient s'ajouter. Or, le point de vue individuel de chacun d'entre nous, c'est notre propre personne. Oui. C'est là encore où Maritain n'a pas suffisamment précisé la distinction entre personne et individu. Il a presque séparé les deux. Alors que la personne, c'est ma substance, et elle est nécessairement individuelle. La personne, elle est individuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle implique ma substance, et ma substance est individuelle. Et ma substance assume mon corps, comme une partie essentielle de moi. Alors ça, j'espère que vous le saisissez bien. Et vous voyez tout de suite que si je veux préciser alors, qu'est-ce que c'est que cette substance individuelle ? Je dis cette substance individuelle, c'est tout simplement la substance, dans notre de l'être, le principe qui de fait existe dans notre monde physique en assumant la matière et la quantité et les qualités. Parce que les qualités font partie de mon individuation, c'est bien évident. Alors, maintenant passons à ce problème très important au plan de l'œuvre. On va assez vite parce que tout ça, il faut quand même avancer, j'ai promis de voir la métaphysique de l'art et de la puissance. Hein. Promis. Donc je suis obligé d'aller assez vite. Cette première partie de la métaphysique, on avait vu très longuement l'année dernière. Alors comme ce cours prolonge celui de l'année dernière, vous comprenez bien, je suis obligé d'aller vite. Alors, je vois maintenant comment, ayant découvert à partir de ce qui est, avoir découvert que ce qui est premier, c'est l'ousia, je peux dire tout de suite, ce qui est second, c'est tous les accidents. Alors, qu'est-ce que c'est que ces accidents ? Ces accidents, c'est la qualité. C'est la quantité. C'est la relation. Donc la première division, comprenez bien, la première division à l'intérieur de ce qui est, c'est l'ousia et la qualité. Je crois qu'on peut dire ça. Substance et qualité. C'est la première division que je fais. C'est vraiment une division. Je sépare le principe, la racine, la source des déterminations secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'accident ? Ce sont des déterminations secondaires. Ce sont des déterminations relatives à quelque chose de premier. Qu'est-ce qui est relatif à quelque chose de premier ? La qualité. Qu'est-ce qui est relatif à quelque chose de premier ? La quantité. Qu'est-ce qui est relatif à quelque chose de premier ? La relation. Ce sont les trois grandes déterminations accidentelles. Je pourrais en ajouter, hein, parce que je pourrais ajouter tous les prédicaments. Mais au fond, au point de vue métaphysique, je ne peux pas étudier au plan métaphysique ce que c'est que le temps. Je peux étudier au plan métaphysique ce qu'est le temps après avoir vu l'éternité. Alors, dans la lumière de l'éternité, dans une vision de sagesse, je peux dire ce que c'est que le temps. Je n'étudie pas directement, le temps est essentiellement lié au monde physique. Tandis que par rapport au monde métaphysique, qui saisit la substance, puisqu'elle saisit le pose de la substance, et qu'elle voit que par le pose de l'accident, que par le pose de la substance, je saisis la substance individuée, alors la substance individuée, elle implique qualité, quantité, relation. Mon substance individuelle implique tout cela. Alors, je me pose la question, je vais aller assez vite, qu'est-ce que c'est que la qualité du point de vue métaphysique? La qualité, je peux l'étudier en artiste. Ordinairement, c'est les artistes qui parlent le mieux de la qualité. C'est eux qui ont le plus grand sens de la qualité. Je crois que le propre de l'art, c'est de mettre en pleine lumière les qualités de notre monde physique ou de l'être humain. La peinture, c'est la lumière. Mettre en pleine lumière la lumière. Hein. C'est ça le propre du peintre. Et d'essayer, par là, c'est pas mettre les couleurs, c'est la lumière. Les grands peintres, c'est la lumière. Ils se servent de la couleur pour montrer ce que c'est que la lumière. Alors, vous pouvez vous demander, quelle est la qualité dominante dans la sculpture? Quelle est la qualité dominante dans la musique? Chaque art met en lumière une qualité. Et une qualité sensible. Une qualité sensible. On met ça en pleine lumière. L'art culinaire. Le goût. C'est évident, le goût. Alors, le goût avec les qualités propres du goût. Donc, les qualités sont étudiées en philosophie de l'art, dans l'œuvre. Une œuvre demande d'être qualitative. Elle demande d'être qualitative, une œuvre. C'est pour ça qu'une œuvre faite en série, c'est toujours hérétique par rapport à l'œuvre. Parce que c'est fait en série. Ça va pas. Ça va pas, c'est plus une œuvre, c'est fait en série. Un moulard, vous savez. J'ai le prototype, maintenant je peux en faire 1000. Ah ben, c'est pas une œuvre, ça. Alors il faut la raffiner après, il faut la reprendre après, il faut toucher après, pour quel est son caractère individuel. Une œuvre a son caractère individuel. Tandis que le moule ne donne pas de caractère individuel. Hein. C'est le moulard. Ça peut se répéter. C'est la série. La série est contraire à l'œuvre. Parce que l'œuvre est qualitative. La série est quantitative. Je les multiplie. Alors, il faut tout de suite saisir la différence entre la qualité et la quantité. Alors, je peux me poser la question de la qualité dans le monde physique, dans le monde du mouvement. C'est évident que ça joue un rôle très important. Et puis je peux me poser la question de la qualité par rapport à l'être. Qu'est-ce que la qualité apporte à l'être? Je crois que la qualité apporte à l'être la gloire de l'être. L'être, comme principe, est indivisible, est caché, invisible. Il demande de se manifester. Et la substance indivisible demande de se manifester. Elle se manifeste à travers les qualités. C'est pour ça que je peux dire que les qualités sont la splendeur de l'être, sont la gloire de l'être. Et les qualités sont en même temps les dispositions à l'égard de la substance. C'est vrai, c'est une manière pour moi de comprendre toute la richesse de la substance. La substance nous y a, elle est toujours une source cachée. Je ne peux pas toucher mon lousia. Je ne peux pas toucher ma substance. Je ne peux pas toucher la substance de mon voisin. Mais je la saisis par l'intelligence. C'est mon intelligence qui saisit lousia, qui atteint lousia. Et pour comprendre toute la richesse de lousia, je regarde la qualité. Je regarde les qualités qui émanent de lousia. Et qui manifeste l'usia, qui glorifie l'usia. L'usia est glorifié par les qualités. C'est très beau. Alors, ça nous fait comprendre, grâce aux qualités, toute la richesse de la source. La source cachée, c'est l'usia. Alors je comprends toute la puissance et toute la richesse de l'usia quand je regarde les qualités, quand je regarde les qualités dans un homme. Je vois la richesse de son lousia. Quelles sont les qualités? Les qualités, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est une de mes qualités. C'est une de vos qualités. L'intelligence. Il y a capacité d'aimer. L'amour. C'est une de vos qualités. Ça, c'est les qualités intérieures. Il y a les vertus. Ah, ça, c'est très chaud. Les vertus sont des qualités. C'est évident que les vertus sont des qualités. Les passions sont des qualités. Heureusement. Les passions sont des qualités. Vous voyez, toutes ces qualités, elles sont très multiples. Et qu'est-ce qu'il y a encore? La figura, la figure. La physionomie d'un être. La démarche de quelqu'un. Vous avez tout de suite remarqué que c'était un tel. Oh, j'ai vu de loin, oh, j'ai vu, c'est tout de suite lui, figure. C'est ce qui est le plus significatif, la figure. La physionomie d'un paysage. La physionomie d'un paysage, c'est qualitatif, ça. La physionomie d'un paysage, c'est quelque chose de très unique. C'est quelque chose de très spécial. Ça implique l'érosion, ça implique un tas de choses, la physionomie. C'est la figure. La figure d'un paysage. Alors vous avez tout ça, c'est toutes les qualités. Toutes proviennent de l'usia. Alors, il y a un ordre dans ces qualités. Ces qualités sont diverses. Elles sont diverses. Et cependant, elles sont une par rapport à l'usia. Elles ont la même source. Vous voyez, mon âme spirituelle, elle se manifeste par mon intelligence. Mon âme spirituelle, elle se manifeste par ma capacité d'aimer. Mon âme spirituelle, elle se manifeste par mes vertus. Mon âme spirituelle, elle se manifeste, mon âme spirituelle engagée dans la matière, elle se manifeste par mes passions. Mon âme spirituelle engagée dans la matière s'engage par ma figura. C'était Léonard de Vinci qui disait qu'à 45 ans, un homme avait la figure de son âme. Ce n'est pas vrai ce que je dis. Hein. Mais ça, c'est un artiste qui dit ça. Vous comprenez bien. L'artiste dit ça parce qu'au fond, l'artiste voudrait, à travers la physionomie, découvrir l'âme. C'est ce qu'il veut faire dans son œuvre. Il veut découvrir quelque chose de profond, dévoiler quelque chose qui est caché. Et selon la nature, on ne peut pas dire que la figura correspond exactement à l'usia. Si vous avez une physionomie, je ne sais pas, on peut avoir une physionomie d'archange et être un brillant. Même à 45 ans. Et là, on peut avoir une physionomie de brigand et être un ange caché, merveilleux. Non? Alors, il y a quelque chose qui se traduit hein, dans les yeux, quelque chose qui va vous dire, c'est sûrement pas un brigand celui-là, il a des yeux trop doux. Alors, on voit l'archange par derrière, vous voyez, mais il n'y a pas une harmonie parfaite, hein, parce que c'est chaotique, c'est chaotique. C'est toujours chaotique. Il y a les conséquences du péché. C'est que le nom va s'y oublier. Bon. Alors, il faut essayer d'ordonner en fonction de l'ousia. Quelles sont les premières qualités? Quelle est la qualité la plus parfaite? C'est la qualité de la qualité. Alors, la qualité de la qualité, c'est ce qu'on appelle en grec exis, ce qu'on appelle en latin virtus, ce qu'on appelle en français la qualité de la qualité. C'est ça, c'est la qualité de la qualité. Pourquoi? Parce que la qualité fondamentale, mon intelligence, va impliquer d'autres qualités qui sont des habitus acquis. Des habitus acquis, ce sont des déterminations qui permettent à mon intelligence de pouvoir opérer plus parfaitement. Des habitus là. C'est une qualité de qualité. C'est bien. Il faut des qualités naturelles pour être un artiste. Mais il faut que ces qualités naturelles puissent se développer. Et là, c'est un habitus acquis qui vient s'enraciner dans l'intelligence. L'art nous rend intelligents d'une intelligence particulière qui est l'intelligence de l'artiste. Mais l'art rend intelligent, donne une acuité particulière à l'intelligence. Que si on n'avait pas cet habitus acquis, bah, on aurait moins d'acuité. C'est pour ça que certaines gens voient certaines choses et d'autres rien du tout. Rien du tout. Certaines personnes entendent et se mettent à hurler si ce n'est pas tout à fait juste, si ce n'est pas tout à fait ce qu'il doit être. D'autres personnes pas du tout. La grosse fanfare, c'est plus d'espèce d'importance. Tandis que l'art, c'est la qualité de la qualité. C'est deux choses différentes, vous voyez. Il y a une qualité première, naturelle, l'intelligence. Nos sensations, notre imagination, sont nos qualités naturelles. Elles sont perfectionnées par des excès, par des excès. C'est-à-dire, par des habitudes, des plis, qui viennent permettre à nos puissances, à notre dynamis, à nos puissances d'avoir une acuité plus grande. Et c'est ça qu'on appelle l'habitus. Très difficile à traduire. Hein. Parce que c'est pas une habitude, c'est pas du tout ça. L'art, c'est pas du tout une habitude. C'est quelque chose qui vient déterminer du dedans. C'est pas non plus une méthode. La méthode, c'est extérieur. Il y a des gens de méthode et des gens qui sont des artistes. Il y a des artistes qui impliquent une méthode, mais ce n'est pas la même chose du tout. L'art, c'est de l'intérieur. C'est l'intelligence qui, de l'intérieur, va saisir, va être capable de réaliser quelque chose, va être capable d'être inspiré. La méthode, c'est extérieur. Ce n'est pas une qualité, la méthode. C'est une béquille. Une béquille n'est pas une qualité. Vous êtes bien obligé de prendre une béquille quand ça ne va plus. Vous aimeriez de plus en avoir. La méthode, c'est ça. Donc, quand on vous dit prenez une méthode, saluez. Salut, je suis un infirme. Vous me demandez de prendre une béquille. Très bien. Alors, je prends une béquille parce que c'est bien. On en a tous besoin. Hein. On en a tous besoin parce qu'on a tous besoin d'aller plus vite une méthode. Mais c'est de l'extérieur. Ça n'ennoblit pas un être, une méthode. C'est même souvent ça la maudit. Les gens qui sont trop méthodiques, au bout d'un certain temps, ils sont complètement atomes. Complètement. Parce qu'ils ont été habitués d'appliquer une méthode. Au début, c'est très bien. L'efficacité est plus grande. C'est de l'ordre de l'efficacité. Tandis que l'art, c'est de l'ordre de la qualité. C'est pour ça que les premières qualités, c'est l'art, c'est les vertus intellectuelles. Alors, c'est l'habitude de sagesse. Il faut quand même reconnaître son droit d'être la qualité suprême. L'habitude de sagesse. Et l'habitude de sagesse, on l'acquiert. C'est-à-dire qu'on devient intelligent. On devient intelligent. Et on devient intelligent en faisant de la philosophie. Vous voyez pour nos mots. On devient intelligent en faisant de la philosophie. Et on acquiert l'habitus de sagesse en faisant de la philosophie première. La métaphysique. On acquiert l'habitus de sagesse. C'est-à-dire qu'on acquiert cette espèce de sens, de pénétration plus avant dans la personne humaine. Pénétrer plus avant dans la personne humaine. Pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que la personne humaine. Alors, il y a l'habitus de sagesse, et c'est le premier. Puis, il y a l'habitus de science, l'habitus d'art, l'habitus de prudence au niveau moral. Voilà les premières qualités. Ensuite, vous avez les puissances qui sont en nous. L'intelligence, toutes les puissances naturelles que nous avons, nous sont des qualités, mais qui demandent d'être perfectionnées. C'est pour ça qu'il y a la qualité de la qualité, puis il y a la qualité fondamentale. Puis alors, il y a d'autres qualités qui sont des qualités capables d'être mues par quelqu'un. C'est l'aspect passionnel. Je peux subir l'action, ou je peux la faire subir. Alors ça, c'est un autre genre de qualité. Et puis alors, la dernière qualité, c'est la figura. La figura, c'est la qualité dans le monde matériel. Les qualités, c'est ce que je connais le plus immédiatement. Quand je rencontre un être humain, une personne humaine, si j'ai moi-même telle ou telle qualité, je suis sensible à ces qualités. Et je suis capable de les capter. Si je ne les ai pas, je ne les saisis pas. Un artiste détecte tout de suite un artiste. Un béotien a beaucoup de peine de le détecter. Un homme qui a l'habitude de sagesse reconnaît tout de suite s'il a l'habitude de sagesse. Celui qui ne l'a pas a beaucoup de peine. Il y a quelque chose en lui qui m'échappe. C'est ce qu'on dira. Il semble très intelligent, mais je n'arrive pas à saisir. Vas-y, il y a quelque chose qui dépasse, quelque chose qui échappe. Vous voyez, alors, les qualités naturelles, on les saisit tout de suite. On est tous intelligents, donc on saisit tout de suite qu'un être est intelligent. On a tous une capacité d'aimer, on saisit tout de suite la capacité d'aimer. On a une sensibilité passionnelle, on saisit tout de suite la qualité passionnelle d'un autre, selon de notre propre passion. La figura, c'est aussi ce qu'on saisit le mieux. Les domaines des qualités. Alors, la fois prochaine, on essaiera de dire un petit mot sur la quantité et la relation. Mais j'irai vite, parce que je voudrais, avec vous, entrer tout de suite dans la métaphysique de l'acte de puissance. Étant donné que le semestre va très vite quand on vient tous les 15 jours. Voilà.